Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Psychose au sein de la population de Banyalichabi dans l'Ituri. En cause, les incursions répétitives des ADF. Cette semaine, ils ont enlevé 3 personnes et blessé une autre au village Moulangou. La société civile locale demande l'intervention rapide de l'armée. Mbujimayi, cette bonne nouvelle pour les propriétaires des dépôts et des hangars. Pas de frais à payer pour ceux qui acceptent de retourner au grand marché Smith. Décision du maire de la ville pour rendre opérationnel ce marché abandonné plus de 10 ans par les opérateurs économiques. Et puis, le kidnapping prend de l'ampleur dans les territoires d'Ouvira et Fizi au sud Kivu. Situation qui cause la pauvreté des populations locales à la suite de la rançon exigée par les bourreaux, l'alerte est du réseau local de protection des civils. Pour en parler, nous recevons Yves Ramazani, membre de ce réseau. Avant tout, notez le lancement de Radio Okapi Enfant, cette nouvelle station radio dédiée aux enfants et qui va démarrer ses programmes le lundi 23 novembre 2020 de 8h à 17h sur la 103.2 FM. Le lancement officiel a eu lieu ce vendredi au Jardin botanique de Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. La cérémonie a été animée par la chef de la MONUSCO, Madame Leila Zerougui, la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, la vice-ministre de l'environnement et développement durable ainsi que du représentant de l'UNICEF en RDC. Cette radio aura pour but de donner la parole aux enfants sur des questions liées à la santé, l'éducation, l'environnement, la protection de l'enfant, l'eau et l'assainissement. Radio Kapi Enfant est le fruit du partenariat entre l'UNICEF et la MONUSCO. Madame, messieurs, bonjour. En Ituri, 5 villages sont sous menace des présumés rebelles ougandais des ADF dans la chefferie de Banyalichabi au sud du territoire d'Irumu. Il s'agit de Tondoli Centre, Moulangou, Batonga 1-2 et Mudunguli. Selon la société civile locale, les incursions répétitives de ces hommes armés dans ces entités créent une psychose au sein de la population. Le dernier cas a eu lieu dans la nuit de mercredi à hier jeudi au village Moulangou, où ces ADF ont kidnappé 3 personnes et blessé une autre par une bombe. Cette structure citoyenne appelle à une intervention rapide de l'armée. Martial Kiza nous raconte.
C'est depuis environ 2 semaines que la présence de présumés rebelles ougandais d'ADF est signalée dans les groupes Matondoli après avoir été chassés les mois de septembre et d'octobre par les FRDC et la brigade spéciale d'intervention FIB de la MONUSCO. Selon la société civile de Tchabi, ces rebelles empêchent la population d'accéder à leurs champs. Ils pillent des habitats dont des chèvres, des poules et d'autres objets de valeur. Son président Raphaël Lingassa indique que la nuit des mercredi à jeudi, ces hommes armés se sont introduits à Moulangou où ils ont tiré des coups de feu avant de prendre en otage 3 personnes, dont une fille de 12 ans, des hommes de 60 ans et un jeune homme de 22 ans. D'après toujours la même source, avant de se retirer, ces hommes armés ont fait exploser une bombe qui a blessé une personne au pied. Cette structure citoyenne s'est dit très inquiète de l'activisme des ADF dans cette région où l'absence des forces loyalistes est remarquable. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, l'ONG Médecins Sans Frontières dénonce la multiplicité des cas de violence, surtout des violences sexuelles à Salamabila, dans la province du Maniema. Cette ONG demande ainsi aux hommes armés actifs dans la zone de se conformer au droit international humanitaire. Appel contenu dans un communiqué publié hier à Bukavu. Le document fait état de 3 cas de violence subis par les civils dans cette zone le 11 novembre dernier. MSF dit constater amèrement que le nombre élevé d'incidents de violence sexuelle est particulièrement alarmant à Salamabila. Le chef de mission de MSF Espagne propose ici une voie de sortie. Carlos Francisco Cabello est au micro de Michel Chirimwami.
Nous, en tant qu'organisation médicale humanitaire, on essaie de faire d'abord la prise en charge de ces survivances des violences sexuelles, mais on veut aussi avoir une approche plus complète et ne pas aller seulement sur la prise en charge, mais essayer aussi de faire une sorte de prévention avec l'objectif de réduire le nombre de cas de violences sexuelles et de donner un soutien plus intégral à ces survivants des violences sexuelles. C'est pour ça que tout d'abord, c'est qu'on demande aux acteurs forces armées d'arrêter ces attaques contre les civils. Donc, le droit international humanitaire doit être respecté et les civils doivent être toujours respectés. Ils ne peuvent pas être agressés de quelle façon. En plus de ça, nous, on demande aussi les autres acteurs humanitaires de se positionner sur Salamavila pour essayer de répondre à ces attaques, à ces cas de violence sexuelle et pour essayer de protéger plus les femmes et la population de Salamavila.
Direction le Grand Katanga. Les jeunes délinquants appelés Kuluna venus tout récemment de Kinshasa ont tenté à nouveau de s'enfuir hier du centre de Kanyamakassese en direction du Kasaï oriental. D'après l'administrateur intérimaire, cette situation inquiète la population, même si depuis l'arrivée de ces jeunes à Kanyamakassese, ils ne dérangent personne. Florent Mwambakabea, l'administrateur du territoire intérimaire de Kanyama, s'est confié à Jean Gandou.
Hier, là, j'ai été formé par les services de l'ANR. Il y a 4 colonels qui étaient arrêtés à Madikayembe et on a appelé le colonel à Kassene, il est allé les récupérer. Madikayembe, c'est une localité qui se situe à plus ou moins 20 km de ce site-là. Le deuxième groupe, on est venu me voir au bureau qu'il y a un groupe de colonels qui sont à Kamayangala, qui se situe à plus ou moins 5 km de ce site. Aussitôt informés, nous sommes rendus à Kamayangala. On ne les a pas trouvés. On a posé la question au chef du village. Il dit, effectivement, c'est 5 colonels qui sont entrés du côté des champs. Les femmes ont dit, c'est ma cousine. Elles ont commencé à fuir. On a appelé les hommes qui sont allés à les ressources. On les a amenés dans le village, ils ont demandé à manger, on a donné à manger. Et après, ils ont commencé à demander au chef du village de leur chercher des habits pour s'échanger. La population a refusé. Donc ils ont demandé la route qui mène vers Kanyama. La population a montré la route qui mène vers Kanyama. Et jusqu'à présent, on ne les a pas retrouvés. On ne sait pas s'ils sont en brousse ou bien s'ils sont rendus encore dans les casernes.
À Goma, des leaders religieux promettent de s'impliquer dans la sensibilisation pour la paix, l'amour et la tolérance. Ils se sont prononcés ainsi à l'issue d'une réunion mercredi sur l'initiative du consortium Action pour la paix en Afrique, APA et Africa Amani. L'objectif, selon les organisateurs, est de contribuer au rétablissement de la paix dans les zones affectées par les conflits armés au nord et au sud Kivu ainsi qu'en Ituri. Le porte-parole du consortium dit se réjouir du fait qu'à l'issue de cette rencontre, ces leaders religieux ont accepté d'accorder des espaces dans leurs cultes et rencontres pour parler de la paix, l'amour et la tolérance aux communautés. Kasomo Malamasa, porte-parole du consortium, est au micro de Mathieu Ilunga.
Les confessions religieuses ont trouvé que c'était important de s'investir dans la paix parce que eux-mêmes prêchent la tolérance. Étant une partie de la société civile, nous, Action pour l'Afrique, APA, en consortium avec Africa Mani, nous nous sommes réunis avec eux pour voir comment nous allons construire la paix et surtout la pérenniser. Les confessions religieuses vont nous donner et la jeunesse et les mamans et les papas qu'on discute ensemble sur la tolérance et ils vont nous aider à atteindre les populations au niveau de Sud Kivu et au niveau de l'Ituri pour qu'on puisse construire la paix. Actuellement, les points chauds qui puissent encore exister, il y a l'Ituri, il y a le Nord Kivu, il y a le Sud Kivu. Il y avait le Kasaï, mais au Kasaï, ça commence déjà à aller. Donc, nous devons voir comment construire et garantir la paix pour qu'on puisse parler aussi de développement. Chaque jour, nous n'avons pas droit seulement à écouter où il y a des tueries, non. On doit nous dire, voilà, on a construit la route, on a fait l'entrepreneuriat, ce sont des messages dont nous avons besoin. C'est-à-dire, les confessions religieuses réunissent toutes les tendances, toutes les communautés confondues, d'atteindre la population d'une manière très facile et leur parler de la tolérance et construire la paix.
Rendons-nous au Parlement. Examen hier à l'Assemblée nationale de la question orale avec débat du député CD Azabousou sur la rareté du courant électrique et de l'eau potable dans plusieurs provinces de la RDC, dont la capitale Kinshasa. Le débat général sur cette problématique a été retourné à la Commission aménagement du territoire à la suite de la motion incidentielle du député Alfred Maïcha. Après avoir circonscrit l'état de la question, notamment les difficultés qu'éprouve la régie des eaux et la SNEL pour desservir la population, le ministre des Ressources hydrauliques, Eustache Moisi, qui s'attendait au débat général, a été finalement exempté. Le président de la commission aménagement du territoire, infrastructures et travaux publics s'est dit satisfait de la décision de la plénière. Christian Mwando le dit à Michel Kifindangoy.
Nous sommes là pour redresser un peu les infrastructures. Le message ici, c'est que vous venez de suivre que la question orale qui a été posée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité a été renvoyée à la commission qui statue déjà sur ça. Parce que la question de de l'eau et de l'électricité ne peut pas se traiter comme ça en plénière. Il faut qu'on aille en profondeur. À l'issue des auditions du ministre que la commission va faire, on va même diligenter probablement des commissions d'enquête pour voir un peu ce problème d'eau et d'électricité qui ne trouve jamais de solution au niveau de la population. Qu'est-ce qui ne va pas? Et faire des recommandations éventuellement à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Donc c'est ça notre travail et la plénière vient de nous recommander de le faire le plus tôt possible.
Je vous le disais en titre, à Mbujimayi, bonne nouvelle pour les propriétaires des dépôts et des hangars, ceux qui acceptent de retourner au grand marché Smith. Le maire de la ville affirme qu'ils ne seront soumis à aucun frais pour la reprise de leurs activités dans ce marché. L'autorité urbaine demande aussi à tous les camions transportant les marchandises en provenance des centres de production tels que Nganajika, Luputa et Wikong de se rendre au grand marché Smith dans la commune de la Mouya pour décharger leur cargaison. Toutes ces décisions sont contenues dans un arrêté urbain. Luidorn Tumba Chapota justifie cette disposition par la volonté de mettre à l'aise les marchands qui jadis évoluaient dans ce marché. C'est aussi pour rendre le marché Smith opérationnel car depuis plus de 10 ans, les opérateurs économiques l'ont abandonné pour mener leurs activités commerciales dans les parcelles résidentielles au niveau du grand marché de Bakwadianga dans la commune de Dibindi. Luidorn Tumba Chapota, maire de Mbujimayi, au micro d'Esther Ndalafina.
Pour les encadrer suffisamment, nous avons relancé l'arrêté urbain qui demande à presque 90% des parkings de monter vers ce marché-là. Donc ça veut dire quand ils viennent avec les produits, ils doivent aller les décharger à ce niveau-là et les gens peuvent prendre déjà les dépôts. Dans un premier temps, nous sommes dans une période de sensibilisation. Nous allons recourir à la fermeture progressive de quelques marchés pirates qui fonctionnent dans les parcelles des gens où nous allons sentir des tracasseries pour amener les marchands et les commerçants à rentrer au marché des Sinistres. C'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Ce marché a été fermé depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, nous ne serons pas en mesure de le retourner en une fois. Nous avons organisé une grande prière autour de ce marché, vendredi, samedi et dimanche. Nous avons clôturé et nous les avons sensibilisés à rentrer chacun dans son dépôt, chacun dans son hangar, sans payer aucun frais. Parce que nombreux craignent les frais. Non, il n'y a pas de frais à payer quand quelqu'un retourne dans son dépôt ou dans son hangar. Mais il y a un problème des hangars qui ne leur appartiennent pas. Ils peuvent venir les louer. Je crois que c'est le marché où ils peuvent être à l'aise et c'est au marché où ils peuvent être très tranquilles que d'être dans les parcelles de gens.
Dans l'actualité aussi, la nouvelle société civile en territoire de Beni qui plaide pour la réhabilitation des routes de desserte agricole qui, selon elle, sont en mauvais état en cette période pluvieuse. Moïse Kipoutou, le son président, demande aux attributaires de ces routes de la chefferie de Bachou d'y mettre des cantonniers, ce qui pourrait non seulement réparer ces routes, mais aussi résorber le chômage de la jeunesse. Moïse Kipoutou, joint par Sekombi Katondolo.
En cette période pluvieuse, nous avons constaté que les rizières à venir sont tellement délabrées, délaissées, ce qui est à la base des blocages de circulation de la population avec leurs véhicules, avec leurs motos. Vraiment, il est difficile de traverser dans certaines avenues et certaines rues dans la ville de Beni. Nous savons qu'au niveau de la mairie, il y a le service de voiries urbaines, mais aussi les bourgmestres des communes. On ne connaît pas vraiment leur travail. Aucun bourgmestre n'a pris l'initiative d'entretenir les avenues ou les rues dans sa commune, ni d'être le courage de certains jeunes, de certaines organisations. Donc nous pensons que les bourgmestres des communes, avec les maires des villes, ils devraient se mobiliser en engagant par exemple la jeunesse pour appuyer les salons, pour permettre à ce que quand même les avenues et les rues soient bien entretenues.
Actualité internationale. Le Burundi refuse de prolonger la présence du bureau de l'envoyé spécial de l'ONU. Le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur ce pays volontairement mesuré pour tenter de maintenir le dialogue avec Gitega n'y a rien fait. Le gouvernement vient de rejeter dans une note verbale parvenue à RFI la principale proposition d'Antonio Guterres dans ce rapport, celle de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 la présence du bureau de son envoyé spécial au Burundi. Présidentielle américaine, la victoire de Joe Biden a été porté jeudi par un récomptage à la main des bulletins dans l'état clé de Géorgie. Le président élu a dénoncé l'incroyable irresponsabilité, selon lui, de Donald Trump, qui refuse toujours d'accepter sa défaite lors de l'élection du 3 novembre, a dit Joe Biden.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. Le réseau local de protection des civils déplore la situation de kidnapping devenue monnaie courante contre les paisibles citoyens dans les territoires d'Uvira et de Fizi. Dans un rapport d'alerte publié lundi 16 novembre, le secrétaire exécutif de ce réseau attire l'attention des autorités tant civiles que militaires de trouver une solution à ce phénomène qui a plongé les populations civiles dans une pauvreté extrême, entraînant la souffrance à la suite de la rançon exigée par les bourreaux. Notre invité, Yves Ramazani, du réseau local de protection des civils s'entretient à ce sujet avec Fiston Ngoma.
Bonjour Yves Ramazani ou Ramazani.
Oui, bonjour.
Quel est l'état des lieux des cas d'enlèvement depuis ce mois de novembre?
Vraiment, la situation aujourd'hui est déplorable puisque depuis le 1er novembre jusqu'à aujourd'hui le 16, nous venons de comptabiliser dans nos points focaux 13 personnes déjà enlevées, dont 3 cas à Fizi et 10 personnes à Uvira. Parlons des derniers cas d'hier, le 15, 2 personnes ont été kidnappées, ils quittaient Ndunda vers Kimuka, ils étaient à bord d'une moto, malheureusement ils ont tombé dans une embuscade tendue par les porteurs d'armes, à plein de la Ruzizi, et il y avait un homme et une femme. Ces 2 personnes ont été emportées dans la brousse, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de traces de ces 2 personnes. Dans le haut plateau d'Uvira, on a aussi enlevé 5 femmes qui vivaient dans le camp de Bijombo, qui partaient à la recherche de nourriture dans le village de Kangwe. Malheureusement, ils sont tombés dans une embuscade tendue par le présumé Gumino. Selon les informations que nous avons, ces femmes ont été molestées. Ils ont été libérées le soir de cette même date du 14 novembre 2020.
Alors, quelles sont les zones les plus touchées dans Uvira et Fizi par ces cas d'enlèvement?
Actuellement, les zones les plus touchées, c'est le haut plateau d'Uvira, donc dans Bijombo et dans la plaine de la Ruzizi. À Fizi, il y a la partie de Basikalangwa, où on avait enlevé les humanitaires de Oxfam, et aussi la partie Sebele vers Malindi. Ce sont les grandes parties aujourd'hui où il y a beaucoup de récurrences par rapport à cette situation d'enlèvement et de kidnapping.
Alors, quelle analyse faites-vous sur les motivations derrière ces kidnappings en lien avec les groupes armés?
On a dit Gumino avec leurs alliés et le Mai Mai avec leurs alliés, puisque ceux qui ont enlevé les gens dans la plaine de Ruzizi, ce sont le Mai Mai en collaboration avec le FNL, puisque la région là, il y a beaucoup de groupes armés qui circulent et les informations à notre possession, ce sont le FNL qui font la loi là-bas. Toute la partie littorale de la rivière Ruzizi, ce sont les FNL qui sont en nombre important et ils font beaucoup de bavures à l'encontre de la population civile.
Oui. Vous parlez de Gumino, pour quel objectif? Parce qu'auparavant, ils n'étaient pas habitués à un nouveau mode opératoire procédé à des kidnappings.
Tous les groupes armés, que ce soit le Gumino, que ce soit le Mai Mai, vraiment, c'est un problème très sérieux par rapport à la population civile, puisque souvent, ils kidnappent les personnes qui partent chercher la nourriture dans les champs. Et quand ils y rentrent, ils vous diront que non, on a été enlevé par de tels groupes, ils parlaient le Kinyarwanda, ils parlaient le Kirundi, mais c'est du samedi, ils nous ont rassuré que c'était les Gumino.
Mais quelles sont les motivations derrière ça, autant du côté des Mai Mai que du côté Gumino?
Selon nos analyses, on a remarqué que c'est une façon de financer leurs groupes armés. Puisque quand ils enlèvent les personnes, les paisibles citoyens, après l'enlèvement, ils commencent à demander l'argent. Sauf seulement le cas du 14 où les femmes n'ont pas déboursé de l'argent. Mais d'autres cas dans la plaine de la Ruzizi, vraiment ce sont les cas récurrents et dans le territoire de Fizi. Après l'enlèvement, les bourreaux commencent à demander l'argent auprès des familles de ces victimes enlevées. Donc c'est une façon de financer leur groupe, c'est une façon de vivre. Et aussi, ils seraient en connivence avec certaines personnes dans certains villages. Puisque c'est difficile de dire que quelqu'un qui est à Runingu, qui ne connaît pas si le véhicule vient directement, on tend une embuscade et les gens sont enlevés. Ils savent d'où viennent ces gens-là. Il y a une complicité quelque part avec la population civile vivant dans des villages.
Comment les groupes armés collaborent entre eux pour ces cas d'enlèvement?
Oui, là, j'insiste pour la situation des alliés. Puisque nous présumons qu'il y aurait des gens dans le village où ces groupes armés coopèrent avec les gens qui résident dans le village. On a connu un cas en septembre. On a enlevé une famille à Sangé, mais quand les gens ont fait la pression à la famille de présumés auteurs, les gens ont été libérés. C'est par rapport aux groupes armés locaux et étrangers, il y aurait vraiment des ramifications, puisque une personne qui aurait des membres de leur famille dans les brousses, c'est difficile de les enlever, puisqu'ils craignent la représailles de ces autres groupes armés. Mais ceux qui qui n'ont pas de personnes qui sont dans les groupes armés, ce sont des victimes toujours que nous signalons chaque jour. Et ils sont toujours à la recherche d'argent. Et ils savent très bien que tel a eu l'argent, tel a vendu sa vache, ou a vendu sa poule, ou a vendu sa chèvre, pour qu'ils viennent la nuit, ils viennent récupérer l'argent.
Quelles sont les conséquences de ces phénomènes?
Vraiment, s'il y a des conséquences néfastes et douloureuses. Puisque nous remarquons aujourd'hui, la population est trop pauvre. Trop pauvre.
C'est-à-dire, les gens quand même trouvent des moyens pour donner la rançon?
De peur que la personne soit assassinée. Il y a plusieurs cas où des personnes enlevées, ils disparaissent. Ils vendent même des maisons pour qu'ils récupèrent leurs frères, leurs familiers. Et c'est difficile à entendre, puisqu'ils mettent les gens sous la torture intense. Ils mettent vraiment des pressions chaque jour. Malheureusement, ils communiquent par téléphone. C'était au gouvernement congolais de nous aider avec les cellules de communication, d'arrêter ces gens qui font ces genres de bavures. Par rapport à l'État congolais, d'initier des mécanismes efficaces de protection des civils en vue de mettre un terme à ces actes ignobles.
Alors, aux groupes armés, qu'est-ce que vous leur dites?
Avant que nous passions aux groupes armés aussi, les autorités doivent identifier et arrêter les coupables pour qu'ils répondent de leurs actes. C'est pas sérieux. Par rapport aux groupes armés, ils doivent comprendre que la population est fatiguée. Nous avons besoin de la paix. Celui qui aime travailler pour l'État congolais, qu'il s'enrôle dans l'armée congolaise ou dans la police. Nous voulons la paix, qu'ils doivent enterrer leurs armes pour qu'il y ait la paix dans la région.
Yves Ramazani, merci beaucoup.
Et c'est nous qui vous remercions.
Voilà, c'était là notre invité, secrétaire exécutif du réseau local de protection des civils. Il s'entretenait avec Fiston Ngoma par ici. Nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Alain Rongmouchinj, supervision de Julien Yamouini. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde et Belinda Bossouma vous l'a présenté. Merci.